الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فهذه الليلة ليلة السابع من شهر ربيع الأول عام 1441 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في الدرس الثاني في شرح رسالة فضل الإسلام لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. Nous sommes le 3 novembre 2019 et nous voici réunis pour le deuxième cours de l'étude de l'écrit intitulé Les mérites de l'Islam de l'auteur Mohammed fils de Abd al-Wahhab rahimahullah. Dans le premier chapitre, l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, a traité du ou des mérites de l'Islam par rapport aux autres religions et les mérites de l'Islam sur les adeptes et les bienfaits qu'ils gagnent à adhérer à l'Islam qui est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'auteur rahimahullah dans le second chapitre va maintenant nous parler du jugement de l'Islam. Car après nous avoir fait connaître sa valeur, ses mérites, il nous parle maintenant de son jugement en nous disant Bab wujubi dukhuli fil Islam. Chapitre concernant l'obligation d'entrer en Islam. La religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme nous l'avons vu, c'est l'Islam. C'est pour cela qu'il nous a créés. Il est ainsi obligatoire à quiconque parmi les créatures d'Allah, subhanahu wa ta'ala, hommes et djinns, d'entrer en Islam et de se soumettre à Allah, subhanahu wa ta'ala, nul doute sur ce jugement qui est l'obligation. Et après avoir montré les mérites de l'Islam, quelqu'un aurait pu se dire que si l'on embrasse l'Islam, c'est un mérite supplémentaire. Il y a beaucoup de biens, mais ce n'est pas pour autant obligatoire. On peut également embrasser une autre religion. Il y a un bien à embrasser l'Islam, mais il peut avoir un bien à embrasser une autre religion, ce qui est totalement faux. Donc l'auteur a montré ici l'obligation d'entrer en Islam, et lorsqu'il parle dans le premier chapitre des mérites de l'Islam, cela ne veut pas dire que ce n'est pas obligatoire ou que c'est préférable d'entrer en Islam. Entrer en Islam est une obligation, c'est indispensable, c'est le but de la création des djinns et des hommes. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et quand le terme Islam est employé ici, l'Islam a plusieurs sens. Il en a deux. L'Islam ul-Am ou l'Islam al-Khas. L'Islam général et l'Islam particulier. L'Islam général, c'est la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala en appliquant son monothéisme. الاستسلام لله بالطاعة والانقياد له الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. Donc l'islam général, de manière simplifiée, c'est le fait de se soumettre à Allah, au Créateur, en reconnaissant son droit qui est le droit à l'adoration. Et quand on va parler de ce que l'on appelle al-islam al-khas, l'islam particulier, ou alors l'islam spécifique, ce qui est voulu c'est shari'atu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. C'est la législation avec laquelle est venu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Car comme vous le savez, tous les prophètes sont musulmans. Tous les prophètes ont adhéré, ont appelé à l'islam, qui est la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est le sens général de l'islam. Et quand on parle de l'islam particulier, on entend par là la pratique de cet islam général avec la législation avec laquelle est venu Muhammad alayhi salatu wassalam, qui est le dernier des prophètes. Ce sont ses ordres à lui que l'on suit et ce sont ces interdits que l'on délaisse. Alayhi salatu wa salam. Voilà ce qui est voulu par le chapitre. Il est donc obligatoire d'entrer dans cette religion qu'est celle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. L'auteur rahimahullah a dit: wa qawli Allah ta'ala wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Dans le sens rapproché du verset: et quiconque recherche une religion autre que l'islam, on ne lui acceptera pas, et il sera dans l'au-delà du nombre des perdants. Celui qui cherche une religion autre que celle d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qu'il sache qu'il ne sera pas accepté par Allah, subhanahu wa ta'ala. Le Cheikh Salih al-Fawzan, حفظه الله دي فالذين يقولون إنهم على دين وإنهم يعرفون الله ويعبدون الله من اليهود والنصارى ويأبون الدخول في الإسلام ليسوا على دين لأنهم على دين منسوخ انتهى العمل به. Ceux qui disent être sur une religion et qui disent connaître Allah et l'adorer à l'image des chrétiens, des juifs ou autres, et qui refusent d'embrasser l'islam, c'est-à-dire qui refusent de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala comme il le veut. Ils ne sont en réalité pas sur une véritable religion, car elles ont été abrogées par la législation de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les musulmans ont foi aux prophètes, tels que Isa alayhi salam, Jésus, avant lui Moussa alayhi salam, Moïse. Ils y croient fortement, à tel point qu'ils ont pour conviction que celui qui mécroit à un seul des prophètes, c'est équivalent à mécroire à tous les prophètes. Cependant, les musulmans disent que les prophètes et messagers ont été envoyés par Allah tabaraka wa ta'ala pour porter et transmettre le message d'Allah, qui est l'appel à l'unicité d'Allah, subhanahu wa ta'ala, le monothéisme, et qu'ils avaient avec eux, pour les messagers, un livre révélé d'Allah, émanant d'Allah, azza wa jal. Mais ces livres ont été falsifiés. Puis le Coran a été révélé, Muhammad alayhi salatu wa salam a été envoyé, les législations précédentes ont été abrogées. C'est donc celle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui doit être suivi. L'auteur rahimahullah ta'ala nous dit ensuite: wa qawlihi ta'ala inna ad-dina 'inda Allah al-islam. Certes, la religion chez Allah est l'islam. Et lorsque l'on dit ad-din, la religion, ce qui est voulu et c'est ce qui apparaît clairement, c'est qu'il s'agit de la religion acceptée chez Allah subhanahu wa ta'ala, celle qu'Allah tabaraka wa ta'ala accepte et agrée, celle qu'il a légiférée et prescrit subhanahu wa ta'ala, c'est l'islam. Quant aux autres religions, nous dit le Cheikh Al-Fawzan, elles ne sont pas considérées chez Allah, car après la venue de l'islam de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah n'accepte nulle autre religion que cette dernière. Ceci car l'homme est serviteur d'Allah. Il incombe au serviteur d'obéir à Allah, d'obéir à Allah azza wa jal. Et Allah lui a ordonné d'embrasser ou d'adhérer à l'islam, c'est-à-dire à la soumission à lui, subhanahu wa ta'ala. C'est donc un devoir pour chacun d'être musulman, d'être musulman. Et quand on dit d'être musulman ou d'être musulman, il ne s'agit pas que de paroles prononcées, mais ce sont avant tout des convictions auxquelles le cœur est attaché de manière ferme. Et ce sont ces convictions qui sont traduites après par des actions et par des paroles. C'est ça l'islam. qu'Allah accepte, subhanahu wa ta'ala. Autrement, beaucoup de gens s'attribuent à l'islam, se réclament de l'islam, tout en commettant des actions de polythéisme annulant l'islam à sa base. Ils ne peuvent pas être musulmans pour une simple prétention. Ils le sont quand ils appliquent l'essence de l'islam, les fondements de l'islam, le plus grand étant la reconnaissance de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le droit à l'adoration. C'est cette religion qu'Allah accepte subhanahu wa ta'ala et nul autre. L'auteur rahimahullah dit: wa qawlihi ta'ala wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Qala Mujahid: as-subul al-bid'a wa ash-shubuhat. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le sens rapproché du verset: et voici mon chemin dans toute sa rectitude, et voici ma voie dans toute sa rectitude. Suivez-la donc, et ne suivez pas les sentiers, les autres voies, car elles vous feront dévier de sa voie, c'est-à-dire de la voie d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Un jour, le prophète, alayhi salat wa salam, en présence de ses compagnons, a tracé un trait long au sol, à la droite et la gauche duquel il a tracé plusieurs autres traits courts et sinueux. Ces traits n'étaient pas droits. En parlant du long trait, il a dit: voici la voie d'Allah. En parlant des traits divers à droite et à gauche, il a dit: et voici les autres voies. Il n'y a pas une seule de ces voies sans que ne s'y trouve un diable y appelant. Les voies de l'égarement sont nombreuses: la voie du polythéisme, du shirk, du kufr, de la mécréance, de la bid'a, de l'innovation, les kaba'ir, les péchés majeurs, shubuhat, les ambiguïtés, shahawat, les désirs, les passions, les tentations, etc. Et la voie d'Allah Azza wa Jal est unique. Subhanahu wa ta'ala. Puis quand le prophète alayhi salat wa salam a informé les compagnons, après leur avoir montré ce tracé qu'il a fait au sol, il leur a récité ce verset, dont le sens rapproché est: et voici mon chemin dans toute sa rectitude, voici ma voie droite. De quelle voie est-ce que l'on parle ici, si ce n'est l'islam? C'est l'islam qui est visé ici. Et voici ma voie droite, suivez-la donc. Suivez-la donc, c'est donc un ordre de suivre l'islam. Suivre l'islam est donc une obligation. La preuve, ce qui vient ensuite: wala tattabi'u subul. Suivez-la donc et ne suivez pas les autres voies, car elles vous feront dévier de sa voie, de la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui te montre que pour ne pas dévier de sa voie, il faut forcément être dans la voie qu'il a tracée subhanahu wa ta'ala et ne pas suivre les autres. C'est donc une obligation d'adhérer à l'islam, autrement la personne choisira une autre de ces voies diverses et variées qui mènent toutes à l'égarement et dont la finalité pour chacune d'entre elles n'est autre que la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, car ce n'est pas ce qu'il a prescrit ni légiféré. Le Cheikh Salih al-Fawzan hafidhahullah nous dit: as-sirat huwa at-tariq. والمراد به هنا الإسلام. Ce qui est appelé as-sirat, c'est la voie. Et le sens voulu, c'est l'islam. Ainsi, quand on parle de la voie d'Allah, subhanahu wa ta'ala, on parle de l'islam. فَهُوَ صِرَاطُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. C'est donc la voie d'Allah. Vous vous souvenez dans l'étude du livre فَضَائِلُ الْقُرْآنِ, les mérites du Coran, lorsque l'on a lu le récit du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous faisant une image qu'Allah a faite d'un long chemin sur la droite et la gauche duquel se lèvent deux murs, sur chacun desquels il y a des portes grandement ouvertes et descendent de ces portes des rideaux. Il y a un appeleur à l'entrée du chemin qui dit: entrez dans cette voie. et un autre au milieu qui surveille les gens, et dès qu'ils sont tentés d'entrer dans une de ces portes ouvertes, d'ouvrir le rideau, il lui dit « Malheur à toi, ne l'ouvre pas, sinon tu y entreras. » Et à la fin, qu'est-ce qu'il nous dit, alayhi salatu wassalam, « As-sirat huwa l'islam ». Le chemin droit, dans cette image, c'était l'islam. Donc l'islam, c'est le chemin d'Allah, subhanahu wa ta'ala. وهو مستقيم ليس فيه اعوجاج ولا انحراف وانما هو معتدل لا افراط ولا تفريط. Et le chemin d'Allah est droit. Il n'est ni sinueux ni déviant. Quand je dis sinueux, comprenez ce que l'on appelle dans le langage familier zigzag. Il n'est ni sinueux ni déviant. Il est au contraire juste entre l'excès et le délaissement. فَاتَّبِعُوا لَا تَتَّبِعُوا دِينًا غَيْرَ هَذَا الدِّينِ وَلَا تَتَّبِعُوا سُنَّةً غَيْرَ سُنَّةِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم فَإِنَّ هَذَا صِرَاطِي وَهُوَ سَبِيلِي. Suivez-le donc, c'est-à-dire ne suivez pas une autre religion que celle-ci, ne suivez pas une autre voie que celle de la sunna du messager صلى الله عليه وسلم, car c'est ma voie et c'est mon chemin. Le Cheikh a dit « Ta'ammal, sabilullahi wahida, wa siratun wahid, wa amma ghayru sabilillahi fahiyya subulun kathira, hubbul ahwa'i wa hubbul shahawat, kullun lahu tariq, kullun lahu sabil, kullun lahu madhhab, wa nihaya al-khasara, fatafarraqa bikum an sabilih. » Médite bien et vois et remarque que la voie d'Allah est une seule et unique voie. Quant aux autres voies, elles sont diverses, elles sont nombreuses et variées. Elles représentent l'amour des passions, l'amour des désirs. Chacun trouve sa voie, son chemin, son idéologie, et au final, c'est la perdition. Pour cela, Allah Azza wa Jalla a dit, car elles vous feront, dans le sens du verset bien sûr, elles vous feront dévier de sa voie. Subhanahu wa ta'ala. C'est donc une seule et unique voie que l'on doit suivre, la voie de l'islam, la législation de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le premier verset que l'on a lu dans le sens du verset est quiconque recherche une religion autre que l'islam, elle ne le sera pas acceptée. C'est une preuve pour ceux qui choisissent la mécréance. Leur religion ne sera pas acceptée. C'est aussi une preuve pour ceux qui, dans l'islam, choisissent l'innovation. L'innovation n'est pas acceptée. Parce que quand Allah subhanahu wa ta'ala, dans le verset, nous dit que celui qui cherche une religion autre que l'islam, elle ne lui sera pas acceptée, l'innovation est une religion autre que l'islam. Autre que la législation de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, elle ne sera donc pas acceptée par Allah. Ainsi, ce verset concerne tant bien le kufr que l'innovation. La mécréance que l'innovation. Mujahid, rahimahullah, un des élèves de l'imam Abdullah ibn Mas'ud, qu'Allah l'agré, spécialiste du tafsir du Coran, a dit « As-subul al-bida'u wa shubuhat » ce qui est voulu par les voies dont Allah nous interdit le suivi, dans le verset, ce sont les innovations et les ambiguïtés. Les innovations, al-bida', et les ambiguïtés, al-shubuhat. Al-Sheikh al-Fawzan nous dit, al-bida'u wa shubuhat, hiya min al-subul illati tatafarraqu bi ashabiha, kullu hizbin bima ladayhim farihun, wa hadha min tamam al-uquba. أن الإنسان يفرح بالباطل فإذا فرح بالباطل فلن يتركه. Les ambiguïtés et les innovations font partie, dit-il, des voies qui causent la déviance de la voie d'Allah Azza wa Jal. Remarquez, Mujahid rahimahullah dit السبل البدع والشبهات. Les différentes voies sont les innovations et les ambiguïtés. Al-Sheikh Salih Al-Fawzan dit, les innovations et les ambiguïtés font partie des voies. C'est-à-dire que Mujahid rahimahullah a expliqué ce verset par une des catégories qui sont nombreuses des différentes voies qui sont toutes de l'égarement, parmi lesquelles al-bid'a wa shubuhat, les innovations et les ambiguïtés. Sinon, il n'y a pas que ça comme voie. Là, il y a la voie du shirk, il y a la voie du kufr, il y a la voie des péchés et d'autres égarements. Le fait que Mujahid rahimahullah cite ici pour expliquer ce verset, cette partie-là des voies égarées et égarantes qu'est l'innovation et l'ambiguïté, c'est pour appuyer sur sa gravité. Et Cheikh Saleh Al-Fawzan hafidhahullah dit que ces voies-là ont fait dévier les gens et les ont séparés et éparpillés de la voie d'Allah, au point que chacun parmi les adeptes de ces voies différentes se sent heureux de la voie qu'il suit. Le chiite est heureux d'être un chiite. Le soufi est heureux d'être un soufi. Le ikhwani est heureux d'être un ikhwani. Le tabliri est heureux d'être un tabliri. Le khariji est heureux d'être un khariji. Le ash'ari est heureux d'être un ash'ari. Le menteur sur Allah et son prophète, alayhi salatu wassalam, est heureux d'être un menteur sur Allah et son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui dénature les textes, qui les falsifie, est heureux de le faire. Kullu hizbin bima ladayhim farihun. Chaque groupe est heureux de ce qu'il a. Et cela fait partie, nous dit le Cheikh Al-Fawzan, du châtiment d'Allah. Le fait d'éprouver de la joie alors que l'on suit le faux. Pourquoi cela? Parce que quand l'homme qui suit le faux éprouve de la joie pour cela, car il pense être dans le vrai, comment va-t-il s'en détacher? Il pense être dans le vrai. Il éprouve de la joie. Très nombreux sont ceux parmi les gens du faux qui disent « Alhamdulillah que je suis dans ce chemin-là ». Un jour, un Tidjani, un soufi, qui a tenu des propos de Shirk Akbar, m'a dit « Alhamdulillah ». Je lui ai dit qu'Allah te guide. Il m'a dit « Demande à Allah qu'il me guide encore plus dans le chemin que j'ai suivi ». Comment voulez-vous que quelqu'un qui est convaincu et qui aime le batil, le faux dans lequel il est, s'en détache si Allah ne le guide pas? Car Allah fait ce qu'il veut, il peut guider qui il veut. Subhanahu wa ta'ala, nous lui demandons la guider pour nous et pour les autres. أما الذي يسير على الباطل ولم يفرح به فهذا ربما يبحث عن الحق ويهتدي إليه. Quant à celui qui suit le faux mais qui n'en éprouve pas de la joie, c'est quelqu'un qui recherche, il est dans une recherche constante de la vérité. Pour l'instant, ce qui lui est apparu, c'est ce qu'il fait, mais si on lui expose quelque chose d'autre avec des preuves claires, il suit. Celui-là, on peut espérer de lui qu'il accepte la vérité et qu'il y adhère, contrairement à l'autre. لكن إذا سار مقتنعا وفرح بالباطل فهذا لا يهتدي أبدا. Quant à celui qui suit le faux et qui en éprouve de la joie, il n'est jamais guidé. Il n'est jamais guidé, c'est-à-dire tant qu'il est dans cet état. L'auteur rahimahullah a dit وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أخرجاه وفي لفظ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. عائشة كالله لغري apporte du prophète عليه الصلاة والسلام qui dit: quiconque innove dans cette affaire qui est la nôtre, c'est-à-dire dans notre religion, législation, ce qui n'en fait pas partie, il se verra rejeté. Dans la variante de ce même hadith, il y a une nuance dans les termes. Quiconque commet un acte dans cette affaire qui est la nôtre, qui ne relève pas de notre ordre, il se verra rejeté. On a donc deux versions qui sont authentiques. Dans la première, on nous parle de celui qui innove, celui qui invente une chose nouvelle qu'il va attribuer à la religion et qu'il va faire, selon lui, pour se rapprocher d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Cette chose n'est pas acceptée par Allah, azza wa jal, parce qu'elle est nouvelle. Et les nouveautés n'ont pas leur place chez Allah. Elles n'ont pas leur place dans la religion d'Allah. Depuis le jour où Allah a révélé le verset « Al-yawma akmaltu lakum dinakum » Aujourd'hui, j'ai complété pour vous votre religion. Jusqu'à la fin du verset. Depuis le jour où ce verset a été révélé, jusqu'à nos jours et plus loin encore, la nouveauté religieuse n'aura jamais sa place. Et subhanallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam reçoit la révélation. Et il connaît Allah, azza wa jal. Il connaît la religion. Il connaît les dangers de l'innovation. Il met en garde contre le fait d'innover, d'être celui qui va faire quelque chose de nouveau. Et comme si quelqu'un allait dire ensuite, quant à moi, je n'ai rien inventé, je suis. Nous sommes dans le mois de Rabi al-Awwal, le 6. Dans 6 jours à peu près, une innovation qui se répète chaque année va arriver. C'est la célébration de la naissance du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Ceux qui célèbrent cette naissance, lorsqu'ils sont interrogés concernant la raison de cette action, ils disent, nous aimons le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam et nous voulons donc se souvenir de lui, évoquer le nom d'Allah, prier sur lui. Qu'y a-t-il de mal dans tout cela? La réponse est, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, quiconque innove dans notre religion ce qui n'en fait pas partie, il se verra rejeté. C'est une balance qui vous permet de peser vos actions et de les mesurer. Est-ce que cela fait partie de la religion de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? C'est lui-même qui est concerné. Est-ce qu'il l'a fait? Non. Est-ce que il a invité les gens à le faire? Non. Est-ce qu'il a vu quelqu'un le faire sans le blâmer? Non. C'est ça la sunna. La sunna, c'est ce que le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il a fait ou ce qu'il a approuvé de la part d'un de ses compagnons ayant fait quelque chose qu'il n'a pas blâmé, alayhi salatu wa sallam. Après sa mort, les plus grands des sahaba l'ont-ils fait? Non. Les autres après? Non. Ce n'est venu que très longtemps après. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, dit, celui qui innove dans notre religion ce qui n'en fait pas partie, il se verra rejeté. Et là, quelqu'un pourrait dire, certes, quant à moi, je n'ai pas innové. J'ai suivi une action qui se fait depuis longue date. Et là va servir la deuxième version du hadith, qui est, quiconque fait un acte qui ne relève pas de notre ordre, il se verra rejeté. Ainsi, dans la première version, on parle de celui qui invente l'action, et dans la deuxième, on parle de celui qui fait l'action. Même s'il n'est qu'un suiveur, et qu'il n'a pas inventé cette action, tant que c'est quelque chose de nouveau, c'est rejeté par Allah. Subhanahu wa ta'ala, les innovations n'ont aucune place dans l'islam. Al-Sheikh Salih al-Fawzan, hafidhahullah, nous dit, أي أضاف إلى الدين إضافة جديدة لم يأتي بها الرسول صلى الله عليه وسلم. C'est-à-dire quiconque ajoute à la religion quelque chose de nouveau avec quoi le prophète n'est pas venu, صلى الله عليه وسلم, alors il sera rejeté. Et s'il dit إن هذا خير, cette action est un bien, nous lui répondrons بل هذا باطل, non, ceci est faux. Car la religion est complète, comme dans le verset que nous avons entendu, la religion d'Allah a été complétée, subhanahu wa ta'ala. Dans l'islam, il n'y a pas à juger des choses bonnes, à ajouter des choses, à faire un effort d'interprétation venant de nous-mêmes pour estimer que finalement telle action est bonne, telle action est rapproche d'Allah. Sinon, ça deviendrait l'anarchie totale. Et chacun ferait ce qu'il pense et juge bon. Comme salam. Et comment alors on sera unis? Derrière qui? Derrière quoi? Et à quoi servirait le livre d'Allah Azza wa Jal et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et toutes ces biographies des sahaba qui ont lutté pour transmettre la religion d'Allah? Tout cela, on l'efface et on suit à la place quelqu'un, une parole ou une phrase que l'on a lit dans un livre sur une manière d'invoquer Allah Azza wa Jal. Quiconque récite 362 fois après telle prière, quiconque récite 500 fois, quiconque récite 1000 fois, on délaisse les hadiths authentiques, on délaisse la parole d'Allah Azza wa Jal, la parole de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la parole d'Abu Bakr Siddiq, de Omar, de Uthman, de Ali, on délaisse les sahaba, on délaisse les savants de l'islam, et qu'est-ce qu'on prend? On prend des livres où l'auteur nous dit « J'ai vu le prophète en rêve, sallallahu alayhi wa sallam, et ce qui va suivre est ce qu'il m'a demandé de faire dans ce rêve. » Ou alors des livres où on t'enseigne des façons d'invoquer Allah, Azza wa Jal, et à la fin du livre, l'auteur écrit « Après avoir terminé l'écriture de ce livre, j'ai longuement hésité. Et j'ai prié la prière de consultation. Et le prophète m'est venu en rêve et m'a dit que ce livre est un bien et qu'il doit être propagé. » Ça, c'est ce que l'on dit dans le soufisme. Et un très grand nombre de gens sont adeptes du soufisme, malheureusement. Et qu'est-ce qu'ils font de ces récits? Quiconque innove dans notre religion, quiconque fait quelque chose qui n'en relève pas, n'est pas accepté. Ça, c'est la religion d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Vous voulez vous rapprocher d'Allah? Allah vous a légiféré. Apprenez ce qu'il dit. Apprenez ce qu'il veut. Apprenez ce que le prophète a dit, alayhi salat wa salam. Et faites-le. Et ça vous mènera au paradis que vous espérez atteindre. Et que l'on souhaite pour nous et vous. Wallahu al-musta'an. L'auteur, rahimahullah, dit, walil Bukhari an Abi Huraira, radiyallahu anhu, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل من يأبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. Avant de traduire ce hadith, les deux versions que l'on vient de lire prouvent l'obligation de l'islam dans le sens où celui qui ne suit pas la voie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui est rejeté. Ce qui prouve que pour être accepté d'Allah, c'est la voie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est donc l'islam qu'il faut suivre. Plus particulièrement, la législation de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le hadith suivant, il nous dit alayhi salatu wa sallam, toute ma communauté entrera au paradis. Illa man aba. Sauf celui qui s'y refuse. Il fut dit, mais qui est-ce qui refuse? Ils sont étonnés d'entendre que quelqu'un peut refuser d'entrer au paradis. Il répondit, quiconque m'obéit entrera au paradis, et quiconque me désobéit aura refusé, c'est-à-dire d'entrer au paradis. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Ummati », ma communauté, vous devez savoir que quand dans les textes on parle de la communauté se divise en deux. Il y a celle que l'on appelle Ummatu Da'wa, la communauté ayant été appelée à l'islam. Il s'agira alors de tout le monde. Et il y a la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il y a la communauté de Muhammad alayhi salatu wasalam, ceux qui lui ont répondu. On l'appelle Ummatul Ijaba, la communauté ayant répondu. Il y a donc la communauté ayant été appelée à l'islam et la communauté ayant répondu à l'appel de l'islam. Celle qui a répondu, c'est celle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dans ce récit, quand il parle de sa communauté, il parle de la communauté qui a répondu. toute ma communauté entrera au paradis, sauf ceux qui refusent. Il fut dit, et qui refuse? Il répondit, celui qui m'obéit entrera au paradis, et celui qui me désobéit a refusé. Un musulman peut-il entrer en enfer? La réponse? Muslim, un musulman peut entrer au feu? Un musulman peut entrer au feu? Naam. Un musulman peut entrer au feu. On l'a longuement expliqué dans Kitab al-Tawhid, dans l'Wasitiyya et dans plein d'autres livres. L'essentiel, c'est de retenir la chose suivante. Quand vous voyez, c'est une répétition, mais elle est importante, la mention de l'entrée au paradis dans les textes, sachez que l'entrée au paradis se divise en deux. Il y a l'entrée directe. Et il y a l'entrée après un moment. Qu'est-ce que l'entrée directe? L'entrée directe, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui entreront directement au paradis sans passer par l'enfer. Qu'est-ce que l'entrée après un moment? C'est-à-dire que des gens parmi les musulmans vont entrer au paradis, mais après un moment qu'ils passeront au feu de l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Ils passeront ce moment au feu de l'enfer parce qu'ils avaient commis des péchés majeurs pour lesquels ils ne s'étaient pas repentis et à cause desquels Allah a choisi de leur faire payer ses péchés dans le feu. Ceux-là devront passer par le feu avant d'entrer finalement au paradis où ils termineront inévitablement de par le tawhid, la foi en l'unicité d'Allah qu'ils avaient. Il y a donc l'entrée directe et l'entrée après un moment. Vous avez compris de quoi il s'agit. Donc quand le prophète alayhi salatu wasalam dit « Toute ma communauté, c'est-à-dire parmi ceux qui m'ont répondu, entrera au paradis, c'est-à-dire directement, sauf ceux qui refusent. Ceux qui refusent d'entrer directement, ils devront passer par le feu si Allah le choisit. » Ça, c'est avec le rassemblement de tous les textes que les savants ont déduit. Ce que je vous dis, ça ne vient pas de ma tête, n'ayez crainte. Ils ont déduit cela après avoir concilié tous les récits parlant de l'entrée en enfer, l'entrée au paradis. Et donc ici, il nous dit, alayhi salatu wasalam, tous les gens de ma communauté entreront au paradis, c'est-à-dire directement, sauf celui qui s'y refuse. Celui-là, si Allah le décide, parce qu'il a refusé en me désobéissant, il devra d'abord passer par l'enfer pour après rentrer. Le Cheikh Salih al-Fawzan, hafidhahullah, nous dit dans ce récit qu'il contient l'encouragement à entrer dans l'islam. Car celui qui veut le paradis doit entrer en islam. Et celui qui ne veut pas entrer au paradis ne va pas entrer dans l'islam, mais il va plutôt suivre des idéologies, des croyances, des religions différentes, et sa destination finale sera le feu. Car le paradis n'est que pour les gens soumis à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et là, il nous dit qu'il est connu que celui qui se cramponne à l'islam va rencontrer dans son cheminement des difficultés, des nuisances qu'il va subir de la part des gens, parce qu'il ne sera pas comme eux. Les gens diront de lui qu'il est étrange, qu'il est bizarre, qu'il amène une religion nouvelle, et d'autres paroles semblables. Vous avez déjà entendu, je pense, certaines de ces paroles. Mais il se doit d'endurer et de faire preuve de patience, particulièrement dans cette époque, dans les dernières époques, où les troubles augmenteront en nombre. À ce moment-là, celui qui se cramponnera à la religion, à l'islam, sera à l'image de celui qui tient dans sa main une braise ardente. Ces propos sont dans un récit du prophète en réalité, alayhi salatu wassalam. Comme s'il tenait une braise ardente. Subhanallah. On veut tout faire pour le dévier et lui il tient une braise. Pourquoi il tient alors qu'il est en train de se brûler la main? On ne peut même pas lui enlever alors qu'il se brûle. Parce qu'il sait qu'il se brûle pour entrer au paradis. Pour être satisfait, pour qu'Allah soit satisfait de lui. Pour que ses péchés très nombreux, si nombreux, lui soient pardonnés. Pour qu'il soit aimé d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il sait que tenir cette braise ardente, ce n'est rien. À côté de ce qu'il attend, devant Allah, subhanahu wa ta'ala. Quant aux innovations, les innovations ne sont pas contraignantes. Il n'y a aucune difficulté à innover. Pourquoi? Car elles sont en accord avec les passions des gens. Les gens qui innovent, et ça c'est quelque chose d'important, parce que j'ai lu un jour du Cheikh Rabi ibn Had al-Matrali, qu'Allah le préserve, qu'il a répondu à une question. Comment se fait-il que les adeptes de la sunna, il leur arrive d'être pris de paresse dans le vrai qu'ils suivent, alors que les gens du faux sont tout à fait dynamiques, ils sont forts dans le faux qu'ils suivent? Il répondit, c'est normal. Parce que les gens du vrai, Iblis fait tout pour leur rendre difficile la tâche. Alors que les gens du faux, Iblis fait tout pour leur faire croire que c'est bien ce qu'ils font. C'est pour ça qu'ils font. C'est pour ça qu'ils sont dans l'effort. Mais le tout n'est pas cela. Vous vous souvenez de la parole du Sahabi, Abu Darda, quand il a dit qu'il enviait les gens intelligents qui dorment et qui ne jeûnent pas, en comparaison avec les gens de l'innovation qui passent leur nuit à prier et les journées à jeûner, parce qu'ils sont trompés eux. Ils pensent être dans le bien alors qu'ils innovent. Eh bien, c'est la même chose ici. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous raffermisse dans ce chemin. Le Cheikh nous dit, même s'il se fatigue, s'il arrive que l'innovateur se fatigue, il n'en reste pas moins que il éprouve un plaisir dans son innovation. Parce que Shaitan lui enjolive. C'est pour ça qu'ils te disent, viens avec nous, tu vas voir. Viens, essaye, et quand tu auras essayé, tu pourras juger. Car tu vas voir la fraternité qu'il y a entre nous, le partage et autres. Ça, c'est l'enjolivement de Shaitan. Donne-moi un hadith pour que je vienne avec toi. Ne me parle pas de sentiments. Parle-moi de la parole d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. L'auteur, rahimahullah, a dit ensuite, وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الناس إلى الله ثلاثة ملحد في الحرم ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية ومطالب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه رواه البخاري. البخاري rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les gens les plus détestés chez Allah sont au nombre de trois. C'est-à-dire que parmi les gens les plus détestés d'Allah, il y a trois catégories. Ce n'est pas pour les restreindre au nombre de trois. Mais parmi les gens les plus détestés, il y en a trois. Trois catégories de personnes. Tout d'abord, on apprend quelque chose. Allah tabaraka wa ta'ala est décrit par un attribut qui est sifat al-bughd, l'aversion. Il a de l'aversion pour ceux qui méritent son aversion, subhanahu wa ta'ala. Lorsque quelqu'un fait ce qui provoque al-bughd, l'aversion d'Allah azza wa jal, eh bien Allah a de l'aversion pour cette personne, il ne l'aime pas. Les gens les plus détestés chez Allah sont trois. Le premier, mulhidun fil haram. Quiconque, je vais vous traduire littéralement et ensuite on va voir l'explication. Quelqu'un qui dévie dans le al-haram, l'endroit sacré de la Mecque. ومبتغين في الإسلام سنة الجاهلية. Et quiconque recherche dans l'islam une voie de la jahiliya, de l'ère pré-islamique. ومطالب دم امرئ بغير حق ليهرق دمه. Et quelqu'un qui cherche à faire couler le sang injustement de quelqu'un. Ce hadith est important. Premièrement, le prophète alayhi salat wa salam nous dit mulhidun fil haram. Le cheikh Saleh al-Fawzan nous explique le terme al-ilhad, d'où vient le nom mulhid, que j'ai appelé celui qui dévie ou qui penche. Il nous dit al-ilhad huwa al-mail. Ce que l'on appelle al-ilhad en arabe, c'est le penchant. Wal murad bihi al-mail an ta'ati Allah ila ma'siyati. Et ce qui est voulu ici, c'est de pencher vers pencher de l'obéissance d'Allah vers la désobéissance. En d'autres termes et de manière plus simple, c'est de faire ce qu'Allah a interdit. Subhanahu wa ta'ala. De faire ce qu'Allah azza wa jal a interdit. Et bien sûr, les interdits d'Allah ont différentes sortes et catégories. La plus grave est le polythéisme et la mécréance, ensuite l'innovation, etc. Mais celui qui veut faire quelque chose d'interdit dans le périmètre sacré de la Mecque fait partie des gens les plus détestés d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Et cela est interdit, nous dit le cheikh, la déviance ou le penchant vers le péché est interdit à toute époque et en tout temps. Mais la gravité est encore plus grande lorsque cette chose-là est faite dans le territoire sacré de la maison d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qui est un lieu qui mérite le plus grand des respects. Le plus grand des respects. Et un des plus grands penchants vers le péché, c'est le shirk. C'est d'invoquer un autre qu'Allah et d'innover dans la religion. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقُهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. Dans sourate Al-Hajj, il nous dit justement et quiconque désire y faire un ilhad, une catégorie de déviance de la voie d'Allah, de désobéissance, injustement, nous lui ferons goûter un châtiment douloureux. Allah Azza wa Jalla, nous parlant du caractère du territoire sacré de la Mecque, nous dit que celui qui a l'intention d'y faire un mal goûtera un châtiment douloureux. On n'a même pas parlé de celui qui fait ce mal ici, mais du fait d'avoir l'intention de faire ce mal dans le territoire sacré de la Mecque, qui est un territoire qui mérite un grand respect et considération, pour cette simple envie de faire le mal, Allah Azza wa Jal châtie de manière douloureuse la personne concernée. Et ce qui est voulu par Al-Haram, c'est, comme je l'ai dit, les limites du territoire sacré de la Mecque. Elles sont connues, elles sont délimité. La deuxième chose, wa mubtarin fil islami sunnat al jahiliya. Quiconque recherche dans l'islam une voie, ou alors on peut dire une pratique, un acte de l'ère pré-islamique. Une voie ou une pratique de l'ère pré-islamique. Il s'agit ici de plusieurs choses. Ça peut être les innovations dans la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et ça peut être de manière plus globale ou plus générale, tout ce qui est en désaccord avec la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de ses compagnons. Car viendra, ou est venu dans cette communauté, ceux qui suivent les autres communautés. Le prophète, alayhi salatu wa salam, a averti en disant la tattabi'unna sanana man kana qablakum. Vous allez suivre les voies de ceux qui étaient avant vous. Vous allez les suivre. Eh bien ça, ça fait partie du suivi des actions de la jahiliya. Et le terme al-jahiliya, que l'on a traduit approximativement par l'ère pré-islamique, en réalité, ce terme-là, il signifie une ère, un temps, qui est celui qui a précédé l'envoi du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. On l'a expliqué dans le livre Masailul Jahiliya, les pratiques de l'ère pré-islamique. Il s'agit du temps précédant l'envoi du prophète alayhi salat wa salam. On l'appelle cette époque-là Al-Jahiliya. Pourquoi? Parce que les gens étaient ignorants. Et le mot Al-Jahiliya, il vient du mot Al-Jahl, qui veut dire l'ignorance. Les gens étaient ignorants de la voix d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais, dès que le prophète est arrivé, alayhi salat wa salam, la jahiliya absolue, elle a disparu. Elle n'existe plus. Ce qu'il reste, ce sont des résidus de la jahiliya que des gens peuvent avoir, que des peuples peuvent avoir, qui peuvent exister dans certains endroits. Mais en aucun cas, on ne peut dire la jahiliya de manière absolue comme ça. Par contre, on peut dire certaines personnes ont en elles de la jahiliya. Vous comprenez la différence? Parce que quand on dit la jahiliya, c'est général et global. Ça n'existe plus dès lors que le prophète a été envoyé, alayhi salatu wassalam. Par contre, des résidus de cette jahiliya qui a disparu sont restés chez certaines personnes et dans certains endroits. C'est ce qui va vous faciliter de comprendre la parole de l'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, qui va arriver, inshallah, dans le livre, bientôt. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Et quiconque recherche dans l'islam une voie de la jahiliya », c'est-à-dire pendant l'islam, avec lequel a été envoyé le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, donc depuis son envoi jusqu'à la fin des temps, nous sommes maintenant dans l'islam. L'islam est là. Dans cet islam-là, là, peu importe quand, peu importe où, dans cet islam-là, quiconque veut faire quelque chose qui relève de la jahiliya fera partie des gens les plus détestés chez Allah, subhanahu wa ta'ala. Et c'est la partie qui concerne le chapitre qui est l'obligation d'entrer en islam. Car on voit ici l'obligation d'entrer dans l'islam, dans le sens où celui qui recherche autre que l'islam, une autre voie, une autre pratique que l'islam, fera partie des gens les plus détestés d'Allah. Et Allah Azza wa Jalla ne déteste que ceux qui délaissent une obligation ou qui font un interdit. Ainsi, l'entrée en islam est une obligation. Cheikh Salih Al-Fawzan hafidhahullah a dit « Wa hadha huwa mahallu shahid » فالذي يأتي بعادات الجاهلية ويجعلها من الإسلام هذا يبغضه الله أشد البغض. Quiconque met en pratique des coutumes de l'ère pré-islamique et les attribue à l'islam fait partie des gens les plus détestés d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Quant à la fin du récit, وَمُطَّلِبُ دَمِ مْرِئٍ بِغَيْرِ حَقٍ لِيُهْرِيقَ دَمَهِ. Et quiconque cherche à faire couler le sang injustement de quelqu'un injustement. Il s'agit ici de s'en prendre aux innocents et de vouloir faire couler le sang des innocents en les tuant ou autre. Ceci est une pratique de la jahiliya et c'est interdit par Allah. Subhanahu wa ta'ala, c'est un péché majeur et les gens qui agissent ainsi font partie des gens les plus détestés chez Allah. Subhanahu wa ta'ala. Par exemple, le prophète alayhi salat wa salam a dit « Man qatala mu'ahadan lam yarah ra'ihat al-jannah » Quiconque assassine quelqu'un qui a eu un pacte, là on parle de quelqu'un qui n'est pas musulman. Quelqu'un qui a eu un pacte ne sentira pas l'odeur du paradis. Qui est celui qui a eu un pacte? Celui qui entre dans le pays musulman, comme tout le monde, avec un droit d'entrée qui se manifeste sous le visa. Il a un visa, il entre dans le pays musulman. Quand on lui donne le visa, on lui accorde la protection. Et c'est un devoir de lui accorder jusqu'à ce qu'il quitte ce pays-là. Et beaucoup de gens qui ne sont pas musulmans entrent dans certains pays et au final se font tuer. Et les gens qui les tuent pensent qu'ils ont secouru l'islam. Ils ont désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète alayhi salat wa salam a dit, ils ne sentiront pas l'odeur du paradis. Comment peut-on dire après ça que c'est une religion d'injustice? Alhamdulillah. L'imam ibn Taymiyyah rahimahullah a dit, قال ابن تيمية قوله سنة الجاهلية يندرج فيها كل جاهلية مطلقة أو مقيدة أي في شخص دون شخص كتابية أو وثنية أو غيرهما من كل مخالف لما جاء به المرسلون. لما ابن تيمية رحمه الله دي Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle d'une pratique de l'ère pré-islamique, entre dans cette appellation toute pratique pré-islamique. Toute jahiliya, que ce soit la jahiliya que l'on appelle al-mutlaqa, absolue, ou alors muqayyada, rattachée, celle qui est rattachée à une personne, celle qui est rattachée à une pratique particulière. Elle peut être aussi rattachée à un moment, elle peut être rattachée à un endroit, peu importe. Peu importe la jahiliya que la personne veut faire, alors qu'elle est dans l'islam, elle est dans l'ère de l'islam, si elle veut faire une pratique de la jahiliya, du shirk, du kufr, l'adoration des tombes, l'invocation d'autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala, les péchés et autres, eh bien elle sera concernée par la menace cité par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le cheikh Saleh al-Fawzan, hafidhahullah, a cité en exemple un compagnon qui a appelé un autre d'une façon incorrecte. Ce compagnon qui a été appelé était de couleur noire. Et celui qui l'a appelé, quand il l'a appelé, lui a dit « Ô fils de la femme noire, Yabna Saouda ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Ayyartahu bi ummi ». Tu l'as dénigré par sa mère. « Innaka mur'un fika jahiliya ». Tu es une personne qui a en elle de la jahiliya. Parce que cette action-là, là, ce n'est pas une action de l'islam, c'est une action de la jahiliya. C'est pour cela que le prophète, alayhi salam, lui a tenu ses propos. Même si c'est un compagnon noble, et il fait partie des gens les plus pieux sans le moindre doute, il n'est pas infaillible. Le prophète, à travers les compagnons, nous enseigne comment nous conduire. Qu'Allah agrée tous les compagnons. Ensuite, l'auteur, rahimahullah, dit, وفي الصحيح عن حذيفة رضي الله عنه قال, يا معشر القراء استقيموا فإن استقمتم فقد سبقتم سبقا بعيدا فإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. D'après Hudhayfa, le noble compagnon qu'Allah l'agrée, il dit, en s'adressant aux récitateurs du Coran, « Ô vous les récitateurs, observez la droiture. Et si vous observez la droiture, vous aurez largement devancé les autres. Tandis que si vous empruntez les chemins à droite et à gauche, vous serez alors égarés d'un égarement très loin. » Ce que l'on appelle al-qurra, les récitateurs chez les salafs, ce ne sont pas que ceux qui lisent le Coran comme on l'a vu, souvenez-vous-en dans Fadail al-Qur'an, les mérites du Coran. Ce qui est voulu par le lecteur du Coran chez les pieux prédécesseurs, هو العالم القارئ العالم العامل. C'est le lecteur qui comprend le Coran. Il le connaît et l'applique. Hudhayfa, qu'Allah l'agré, s'adressant aux ulama, aux savants, aux lecteurs, il leur dit, ô vous les lecteurs, observez la droiture. Tenez-vous droit. Suivez le droit chemin. Et c'est quoi le droit chemin? C'est l'islam. Il leur dit, si vous observez la droiture, vous aurez largement devancé les gens. Vous serez loin devant tout le monde. Alors que si vous prenez la droite et la gauche, vous vous égarerez d'un égarement très loin. Ainsi, si l'on ne suit pas la droiture qui est l'islam, on s'égarera très loin. Et donc, pour ne pas s'égarer très loin, c'est l'islam qu'il faut suivre. Il est donc obligatoire de suivre l'islam, et c'est le lien entre ce texte et l'objet de ce chapitre qui est l'obligation d'adhérer à l'islam. Hudhayfa, qu'Allah l'agré, a dit ses propos en entrant à la mosquée et en voyant des cercles d'apprentissage, des cercles d'enseignement. Et il a dit aux gens qui apprenaient le Coran dans la mosquée, observez la droiture, c'est-à-dire appliquez ce que vous apprenez. Tenez-vous droit, suivez ce que vous apprenez, car si vous agissez ainsi, vous devancerez tout le monde. Alors que si vous prenez la droite ou la gauche, donc vous ne suivez pas ce chemin-là, vous vous égarerez très loin dans l'égarement. Et le Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, nous dit que cette parole de Hudhayfa, qu'Allah l'agré, nous montre qu'il n'est pas utile de se contenter de lire le Coran sans l'appliquer, sans chercher à le comprendre ni l'appliquer, et que le but de la lecture du Coran n'est pas simplement l'application à la lettre des règles de récitation et ou l'embellissement de la voix sans méditer le sens de ce que l'on récite et sans avoir les comportements de ce livre. Vous souvenez la parole de Al-Hassan al-Basri rahimahullah dans le livre Fada'il al-Qur'an, quand il a dit ce livre a été lu par telle et telle personne. Et certains ont dit, j'ai lu tout le livre d'Allah sans faire tomber une seule lettre, alors qu'il a fait tomber tout le livre. C'est-à-dire, je n'ai fait aucune faute, alors qu'il n'a fait que des fautes, parce qu'il ne l'applique pas, nous dit Al-Hassan, rahimahullahu ta'ala. L'auteur, rahimahullah, dit ensuite, وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَضَّاحِ أَنَّهُ كَانَ يَدْخُلُ الْمَسْجِدِ فَيَقِفُ عَلَى الْحِلَقِ فَيَقُولُ فَذَكَرَهُ وقال أنبأنا ابن عيينة عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه ليس عام إلا والذي بعده أشر منه لا أقول عام أمطر من عام ولا عام أخصب من عام ولا أمير خير من أمير لكن ذهاب علمائكم وخياركم ثم يحدث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم فيهدم الإسلام وينثلم. محمد ابن وضاح dit qu'il est allé à la mosquée faire la même chose que Hudhayfa. Il a rencontré les gens assis à étudier le Coran et il leur a dit la même chose. Observez la droiture, il leur a cité le récit de Hudhayfa. Et il dit, Ibn Uyayna nous a rapporté, d'après Mujalid, d'après Sha'bi, d'après Masruq, les salaf des imams du hadith, d'après Masruq, que Abdullah ibn Mas'ud, qu'Allah l'agré, alaykum salam, rahmatullahi wa barakatuh, que Abdullah ibn Mas'ud, qu'Allah l'agré, a dit, il n'y a pas une année sans que celle qui vient après ne soit pire qu'elle. Je n'entends pas par là une année plus pluvieuse qu'une autre, ou plus sèche qu'une autre, ou un gouverneur meilleur qu'un autre, mais je parle du départ de vos savants et des meilleurs parmi vous, de leur mort, c'est-à-dire. Puis viendra des peuples de gens qui mesureront les choses d'après leur opinion personnelle, au lieu de suivre les textes. L'islam sera alors brisé et défaillant. L'islam sera alors brisé et défaillant. Cette parole-là est une parole extrêmement importante. Et elle concorde avec la parole de Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, rapportée par l'imam al-Bukhari. Anas nous dit, « Isbiru, soyez patients. فَإِنَّهُ لَا يَأْتِ عَامٌ عَلَيْكُمْ إِلَّا وَالَّذِي بَعْدَهُ شَرٌ مِنْهُ. Car il n'y a pas une année que vous passez sans que celle qui vient après ne soit pire qu'elle. سَمِعْتُهُ مِنْ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ. Je l'ai entendu de votre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce que l'on vit, mes frères. Nul doute. Chaque fois qu'on passe d'une année à une autre, d'une époque à une autre, les troubles sont de pire en pire. Les tentations, les péchés, les égarements sont de pire en pire. Le cramponnement à l'islam véritable, authentique, devient de plus en plus difficile parce que nous vivons une époque où beaucoup de gens ne recherchent pas la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais plutôt des intérêts mondains, atteindre un poste, être aimé, avoir des gens autour. Ils n'hésitent pas, pour y arriver, à vendre leur religion et à lui donner des interprétations qui ne sont pas la sienne ou qui ne sont pas d'elle, de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Certains sont même prêts à dire que l'on peut effacer des versets du livre d'Allah. On peut effacer des versets de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous en êtes arrivé à vous vendre vous-même. Jamais on efface les versets de la parole d'Allah, ne le saviez-vous pas? Les enfants mais connaissent le Coran par cœur, comment allez-vous effacer? Vous allez l'effacer d'où? Combien de poitrines connaissent le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala? On ne pourra jamais effacer la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, vous demandez de faire quelque chose qui n'est pas faisable. Vous vendez votre religion pour qu'on vous donne un peu d'argent, un peu de vêtements, une habitation, des intérêts mondains. Ya subhanallah. Na'udhu billahi min ahli al-ahwa wa sharrihim wa fasadihim. Qu'Allah nous préserve des gens, des passions et de leur mal qu'ils commettent dans la communauté du prophète alayhi salatu wassalam. Et cela fait partie de ces époques qui deviennent de plus en plus graves les unes après les autres. Qu'Allah nous donne le cramponnement au haqq, le cramponnement à la sunna, celui qui plaît à Allah, celui qui nous fait entrer au paradis, celui par lequel il nous pardonnera nos fautes, bi-idhnillah, tabaraka wa ta'ala. Peut-être qu'une de ces paroles, qu'une de ces heures, qu'une de ces assises sera la cause de la pitié d'Allah pour nous, yawm al-qiyamah. C'est ce que l'on espère avec nos péchés qui sont si nombreux. Wallahu al-musta'an. Ainsi, l'on voit dans ce récit l'importance d'apprendre la religion. Car plus les époques passent, plus le cramponnement est difficile. Et celui qui ne se protège pas par la connaissance de sa religion, il sera perdu. Cela nous montre l'obligation d'entrer dans cette religion. Car plus les époques passent, plus les gens s'en éloignent. Plus ils s'en éloignent, plus le mal arrive. Donc pour éviter ce mal, que faut-il? Se cramponner à cette religion, d'où la mention de ce texte dans le chapitre concernant l'obligation d'entrer en islam. Le Cheikh Saleh al-Fawzan, hafidhahullah, nous dit فَكُلَّمَا تَأَخَرَ الْوَقْتُ زَادَ الشَّرْ وَهَذَا يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ الْإِنسَانُ عَلَى حَذَرٍ مِنَ الْفِتَنِ وَالشُّرُورِ. Plus le temps passe, plus le mal augmente. Cela implique que l'homme soit sur ses gardes contre les fitanes, contre les troubles et les maux. ثم أخبر في آخر الأثر أنه إذا مات العلماء الأخيار يأتي من بعدهم أناس جهال يحكمون عقولهم ومقاييسهم لأنه ليس عندهم علم وهذا يضلل الأمة ويسبب هلاكها لأن هؤلاء الجهال لا يحسنون الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إذ هما الأساس في التشريع. Puis le prophète nous informe, pardon, Ibn Waddah, que Allah lui fasse miséricorde, nous informe dans la fin de ce récit que les savants vont partir, les meilleurs d'entre nous vont partir, et des gens viendront, ils mesureront les choses avec leur opinion personnelle. Ils se prononceront dans la religion différemment de la manière des savants qui sont partis. Ils vont parler de leur tête. Il s'assoit, il réfléchit, il dit « à mon avis, ce verset, il veut dire telle chose ». Et ça, on le vit. Combien de gens aujourd'hui se font filmer, se font enregistrer, se mettent sur YouTube ? D'où est-ce qu'ils sortent, tous ces gens ? Parce qu'ils repassent leurs vêtements, ils deviennent des ulama, ils deviennent des savants. Et ils sont là, et au début de la vidéo, ils disent « Bismillah ar-Rahman ar-Rahim ». Je n'ai pas l'habitude de faire ce genre de vidéo, mais là, je vais le faire. Mais qui es-tu, toi ? Qui es-tu ? Toi et ta vidéo, qui êtes-vous ? Tu as appris quoi et qui ? Tu représentes qui ? عندنا علماء, on a des savants, comme le Cheikh Saleh Al-Fawzan, hafidhahullah. C'est ces savants qu'il faut écouter, et pas n'importe qui vient et qui dit « je vais vous expliquer, je vais vous dire, je vais vous dire ». C'est aux ulama qu'on revient. Les ulama vont partir, les savants vont partir. Viendront à leur place des gens qui mesureront dans la religion les choses d'après leurs opinions personnelles. L'islam sera alors brisé. Il deviendra défaillant. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, nous dit, « Inna allaha la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min al-ibad, walakin yaqbidu al-ilma biqabdi al-ulama. » Allah n'enlève pas la science en l'arrachant de la poitrine des hommes, mais il l'enlève en donnant la mort aux savants. حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا. Les gens prendront des têtes, suivront des têtes ignorantes. فسئلوا. Ces têtes seront interrogées. فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. Ils émettront des avis religieux sans aucune science. Ils s'égareront et égareront les autres avec eux. فوجود العلماء علامة خير. وَفُقْدَانُهُمْ عَلَامَةُ الشَّرْ. La présence des savants est l'indice du bien. Et leur perte est l'indice d'un mal. وَوُجُودُ أُنَاسٍ فِي هَذَا الزَّمَانِ يُزَهِّدُونَ بِالْعُلَمَاءِ وَيُحَقِّرُونَهُمْ وَيَتَكَلَّمُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ هَذَا مِنْ عَلَامَاتِ السَّاعَةِ وَمِنْ عَلَامَاتِ النَّقْصِ مِنَ الْإِسْلَامِ. Et dans cette époque, la présence de personnes qui font dévier des savants et qui les dénigrent en portant atteinte à leur honneur, nul doute que cela est un indice du rapprochement de l'heure et d'une diminution de l'islam. Le fait de dénigrer le savant, de parler de lui en mal, de dire qu'il ne comprend pas ce qui se passe. Ce sont des ulama qui répondent aux gens dans le halal et dans le haram. Dire qu'ils sont induits en erreur, qu'ils sont trompés, qu'ils ne connaissent pas, et j'en passe. Comment peut-on tenir de tels propos en parlant des élites de la communauté, si ce n'est à cause d'une passion dans le cœur? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Wallahu a'lam, sallallahu wa sallam, wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu.